Ok. Alors, ce matin, je vais prendre un texte. Vous savez, des fois, on prend des messages ou qui sont un peu spéciaux. Mais là, je vais prendre un texte qui est archi connu. Oh, chouette. Mais c'est ce que j'avais à cœur. Et ça c'est tout ce qu'il y a dans la Bible et qui parle d'un petit moment dans la vie de Jésus, c'est qui parle de la tempête. Alors, je vais le lire pour commencer dans Matthieu 8, au verset 23. Alors, Jésus monta dans la barque, ses disciples le suivirent. Alors, il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui, le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, « Quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent ?» Et on peut regarder aussi dans Marc 4, où c'est à peu près la même façon de raconter le récit, avec quelques petites nuances. Donc Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, donc c'est précisé là dans ce passage, c'est le soir, Jésus dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir envoyé la foule, ils la menèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Voilà, ça c'est aussi un autre détail qu'on n'avait pas dans l'évangile de Matthieu. Et il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Voilà, on a encore d'autres détails. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent cessa, un grand calme se fit, puis il leur dit « Pourquoi avez-vous tellement peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent. » Voilà. Et puis vous pouvez trouver aussi ce passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, versets 22 à 25. Je ne le lirai pas, mais vous pouvez y aller si vous voulez. Donc, si on prend le contexte, parce que je vais faire un peu pédagogique, si on prend le contexte, il faut savoir que Jésus avait des raisons d'être fatigué. Des fois, on pense Jésus super héros, mais Jésus, il avait des journées, quand on essaie de suivre un petit peu. Donc là, entre les différents évangiles, on voit qu'il avait beaucoup enseigné, qu'il avait guéri les malades, qu'il avait chassé les démons, qu'il avait fait encore du relationnel. Et à la fin de ça, il y avait encore une grande foule qui était là. Et c'est là qu'il dit, non mais là, on s'en va, quoi. Hein. Voilà, donc ça, c'était... une journée de la vie de Jésus. Donc, on n'est pas étonné quand même que dans la barque, à un moment donné, il dit « Je suis au calme et je vais dormir ». En plus, c'est le soir, c'est la nuit qui arrive, et il s'endort. Et au vu du récit, il s'endort vraiment. Le type de sommeil qu'on aimerait certains avoir. Voilà. Quand on étudie un texte, donc, il faut regarder le contexte. Donc, je n'ai pas pris le temps parce que je ne vais pas faire une étude soignée là-dessus, ce n'est pas mon sujet, mais de regarder qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe après, il faut le replacer dans le contexte de l'histoire. Après, au niveau historique, donc, pour ceux qui ont été en Israël, vous avez déjà vu à quoi ressemblait une barque du temps de Jésus. Oui ? Les autres ? Non. Donc, ils ont trouvé, vers les années 1980-85-6, sur le lac de Galilée, un reste de barque. Et alors, ils ont essayé de la dater. Et ça venait vraiment du temps de Jésus. Donc, ça correspond vraiment aux embarcations de pêcheurs qu'il y avait à l'époque. Et pour ceux que ça intéresse, ça faisait à peu près 8 mètres de long sur à peu près 2 de large. Bon, vous imaginez ce que ça peut faire. Moi, je ne suis pas très douée. C'est grand sans être grand. Ça veut dire qu'ils étaient bien serrés dans la barque. Et moi, ma question existentielle, parce que quand même, quand je lis, je vois. J'aime bien pas simplement voir un texte, mais voir le texte. Et je me dis, mais comment Jésus pouvait dormir alors que la barque se remplissait? Ça, c'est mystérieux quand même, hein. Alors, si quand vous lisez un texte, vous faites quelques recherches historico-archéologicaux, etc., vous avez quelques réponses. Et il y avait à la poupe du bateau un endroit qui était à peu près fermé où on mettait les filets. Et c'est possible que un homme pouvait y rentrer, et c'est possible et sûrement que Jésus devait dormir à cet endroit-là. Voilà. Bon, mais nous, avec un bateau qui bouge comme ça, est-ce que nous aurions dormi? Je ne sais pas. En tout cas, moi non, parce que j'ai le mal de mer. Et après, l'autre question, peut-être qu'on peut se poser aussi, c'est de dire, qu'est-ce que c'est que ce genre de tempête sur le lac de Galilée? Parce que pour ceux qui ont été, en général, c'est un lac, quoi. Et quand il y a un petit clapotis, déjà, on a mal de mer. Mais là, c'est le texte dit, on le voit dans Matthieu, le mot qui est utilisé, c'est ismos, et c'est le même qui est utilisé pour parler des temps de la fin où il y aura des tremblements de terre. Donc ça veut dire que c'est pas juste, ouais, ça bouge un peu, quoi. C'était vraiment des vraies tempêtes. Et c'est connu que par moment, dans le lac de Galilée, sur le lac, il y avait des vraies tempêtes. Donc toutes ces dernières années, il y en a eu un petit peu moins, parce que vous savez que le niveau d'eau a baissé, etc. Mais là, c'est vraiment remonté. Donc à nouveau, ça s'est bien remonté. Et j'ai le témoignage de croyants qui, à un moment donné, je ne sais plus dans quelles années, ils priaient pour je ne sais plus trop quoi. Et le lac n'était sûrement pas content. Il y a une énorme tempête qui s'est déclarée et s'est passée par-dessus. Et même les hôtels ont été atteints. Donc c'est pour dire qu'il peut y avoir des phénomènes climatiques. Et régulièrement, il y a des problèmes. Et il peut y avoir des décès au niveau de ce qui se passe, au niveau climatique, quand même, sur le lac. Voilà, pour dire que c'était pas simple non plus d'être sur ce lac. Et puis cette tempête vient, et heureusement quand même, on se dit, dans l'équipe des disciples, il y avait quand même des professionnels. Parce que si c'est chacun d'entre nous, il est mal parti Jésus avec nous, mais il y avait vraiment des professionnels de la pêche et qui connaissaient bien les bateaux, mais eux-mêmes, à ce moment-là, ont été quand même dépassés par les événements et ont eu peur. Voilà, je vous ai fait très courtement le contexte, on pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais simplement pour vous dire que c'est quand même intéressant quand vous regardez un texte, d'aller creuser un petit peu sur tout ça. Alors, faites pas comme certains qu'une fois qu'ils ont fait tout ça, ça y est, ils ont étudié le texte. Je cite personne, mais là, on a fait juste que poser un cadre qui peut nous aider. Ensuite, pour aller plus loin, il faut que nous nous posions, quand on lit un texte, alors je ne vais pas parler d'herméneutique, d'exégèse et tout ça, je laisse, hein, ok ? Mais si ça vous intéresse, il y a plein de ressources sur Internet et plein de bouquins qui sont bien ou moins, ça dépend. Voilà. Alors quand on lit un texte comme ça, donc comme je vous l'ai dit, c'est un texte que vous connaissez bien, qui vous a déjà parlé d'une façon ou d'une autre. Donc très souvent, on prend ce texte, donc on l'étudie de façon globale, qu'est-ce qu'il veut dire du temps de Jésus. Et donc du temps de Jésus, c'est très simple, ça parle de l'humanité de Jésus. Jésus était fatigué, il dormait. Ensuite, qu'est-ce que ça parle de quoi? Des disciples. Et les disciples, est-ce qu'on peut les condamner? Si nous, on avait été dans la barque, hein, parce que quand même, il faut s'y mettre. Si nous, on avait été dans la barque, on aurait fait quoi? Pas mieux. Même on aurait peut-être réagi plus vite. Voilà. Donc, ils ont eu peur. Et c'est normal, parce que la barque se remplissait, et ça veut dire ce que ça veut dire. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas le téléphone pour appeler les secours, on ne vous lançait pas une fusée éclairante, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas la barque des secours ou le bateau au moteur qui va arriver, t'as rien. Voilà, je le replace juste dans le contexte. Voilà, donc ce texte nous parle vraiment d'humanité. Et pour nous, pour aller plus loin, quelques pistes. C'est cette situation-là que nous lisons, dans laquelle nous rentrons, évidemment, ça peut nous parler d'une situation que nous vivons personnellement. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que je suis en train de vivre une tempête ? Avec cette sensation, ben oui, Jésus est là, mais je ne trouve pas qu'il fait grand-chose. Enfin, on va le dire mieux parce que on va le dire avec des fleurs, mais ça revient au même. Et j'ai l'impression que je coule. Ça parle à certains ? Non, il n'y a que moi, c'est bien. Je vais me prêcher à moi. Et dans cette tempête, qu'est-ce que le Saint-Esprit essaye de me dire ? Et puis, ça peut nous parler aussi de ce qui se passe autour de nous, notre actualité générale, ce qui se passe dans le pays, dans la ville, dans la région, dans le monde. Est-ce que vous pensez que nous vivons un temps de tempête ? Voilà. Donc, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire ? On a l'impression que le monde, que l'Église, quelque part, est dans cette barque et que ça bouge dans tous les sens et on ne sait pas très bien quelle va être la suite. Et puis, la tempête, ça peut nous parler aussi de notre monde intérieur. Et des fois, on vit des choses extérieures à nous, mais des fois, on a des tempêtes qui se lèvent à l'intérieur de nous et on ne sait pas comment l'arrêter. Des fois, vous avez, à cause d'une situation extérieure, tout à coup, il y a une tempête qui se lève à l'intérieur, dans nos émotions, dans nos pensées, et il n'y a pas de bouton arrêt, vous ne savez pas comment ça se passe, vous êtes débordé par les événements, et on a l'impression que ça peut nous faire couler. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe actuellement ? Voilà. Et puis aussi, si on veut être plus prophétique, on est une communauté prophétique, se dire... Bon, ok, il y a une tempête dans ce monde, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ? Et comment je suis en train de vivre ça ? Quel est le sens qu'il y a derrière ? On va le revoir tout à l'heure si j'ai du temps. Le vent, la mer, ça représente quelque chose d'autre. Là, dans la réalité, c'est vraiment de l'eau et du vent, mais spirituellement, ça représente autre chose. Donc, dans ce que nous vivons actuellement, au-delà de l'épidémie, il y en a qui ne veulent pas l'appeler pandémie, au-delà de tout ce qui se passe, de la situation économique, etc., qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce qui sait qui fait que le vent et les eaux sont déchaînées ? Qu'est-ce qui agite ça ? C'est quand même des bonnes questions à se poser. Sinon, on n'aura pas encore bien compris ce qui se passe. Donc ça veut dire que Dieu peut-être va nous parler de la réalité du combat spirituel et qu'il nous demande un discernement, mais qui commande la tempête ? Qui commande les eaux qui sont agitées ? Et puis dernier point, c'est juste des pistes que je donne, et je ne dis pas que je suis du tout exhaustive, mais il pourrait y en avoir d'autres. En rapport avec notre spiritualité, c'est un grand mot, alors notre vie de piété, notre relation avec Dieu, vous prenez les mots que vous voulez, peu importe, comment est-ce que Jésus fait pour dormir dans la tempête ? Pour moi, c'était vraiment une vraie question. Comment il fait ? Voilà. Et de dire que si moi, je suis dans une tempête, est-ce que je peux dormir ? Et ça parle de ma vie spirituelle aussi. Voilà. Donc ça, c'est toutes des... Je ne pose que des questions, et bien sûr, zéro réponse, parfait. Mais c'est pour donner des pistes. Quand on travaille un texte, il faut se dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs compréhensions, et que le Seigneur puisse nous conduire, parce qu'il y en a encore d'autres. Mais un texte est riche. Il y a plusieurs niveaux. Alors, que le Seigneur nous conduise là-dedans. Donc ce texte, ce qui touche en premier, pour moi, c'est la peur. Et ça me semblait encore d'actualité dans les temps que nous vivons. Quand le Covid a commencé, ou la Covid, d'ailleurs, voilà, bref, a commencé à nous toucher, le premier élément qui a été activé, c'est la peur. La peur partout. Et on le sait, la peur est le levier qui tient tous les peuples. Ça, c'est sociologique, c'est tout ce que vous voulez, c'est connu. Quand on tient quelqu'un par la peur, c'est gagné. Et bon, là aujourd'hui, on pourrait dire, on s'est un peu habitué, donc on a moins peur. Ah, si la tempête, d'une façon ou d'une autre, se lève d'une autre façon, la peur, elle est toujours là. Les gens sont tenus par ça aujourd'hui dans la société. Et c'est une peur qui est très particulière, c'est la peur de la mort. Et la Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est cette peur de la mort. Parce que, à part certaines cultures et certains fonctionnements et manipulations mentales, normalement, tout le monde a peur de mourir. Enfin, je crois. Non. C'est une église incroyable ici. Waouh ! Bon, enfin, les autres. voilà, il y a. La mort, c'est quelque chose qui est, et Jésus le sait, la parole de Dieu nous le dit, ça, ce sera vraiment le dernier ennemi qui sera vaincu. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui de façon globale, ça parle de ça. Il y a quelques gens qui disent « Non, mais là, c'est rien ce qui se passe. » Oui, mais allez dire ça à ceux qui sont morts et leurs familles, etc. Il ne se passe pas rien. Et il y a, regardez tout ce qui se passe dans le monde, il y a vraiment des accélérations, enfin moi je le crois en tout cas. Alors, maintenant je viens à mon interprétation du texte, mais vous comprenez que je ne vais pas prendre tous les points, donc je fais quelque chose de très subjectif, et après ce sera à vous, mais je dois aller creuser. Mais je crois que Dieu nous encourage à creuser ce texte, pour savoir comment nous vivons nos tempêtes, personnelles, intérieures, familiale, locale, régionale, nationale, internationale, galactique, ce que vous voulez. Donc comment est-ce que nous vivons ces tempêtes ? Alors oui, il y a une tempête qui s'est levée, elle n'était pas prévisible, elle était soudaine, et puis on voit dans le texte que le facteur aggravant, c'est le soir. Moi j'ai dit déjà une grosse tempête comme ça en journée, voilà, alors le soir... lac de Galilée, c'est pas éclairé, hein. Donc si vous tombez sur une pleine lune, ça va peut-être aller, sinon vous y voyez rien. Donc il y a des facteurs qui rajoutent à l'angoisse, et on pourrait dire que là c'est le cas, et nous pouvons vivre déjà des choses difficiles, et il y a d'autres facteurs qui vont peut-être rajouter aussi à l'angoisse, et je crois que dans la société que nous vivons, dans les temps que nous vivons, tout est fait pour que des choses se rajoutent. Quand quelque chose se calme, c'est comme si un autre facteur était là pour rajouter à la peur et à l'angoisse. Et on ne nous lâche pas. On ne nous lâche pas. Et je crois que si la tempête ne nous lâche pas, alors il faut que nous ayons une position intérieure qui soit mieux calée dans ce que Jésus faisait. Sinon, on va être mal et on va péter les boulons, dit comme ça. Parce que la tempête extérieure peut faire réagir des choses à l'intérieur de nous, etc. Voilà. Alors, ce que dit ce texte, c'est que le problème, ce n'est pas la tempête. Le problème, c'est notre réponse à la tempête. Pourquoi je dis ça ? C'est que Jésus, les disciples, même barque, même condition extérieure. Et donc, nous, par rapport à une situation qui est identique, on est tous dans le même bateau et on ne réagit pas pareil. Il y a une réaction naturelle de dire « on va couler, on va couler ». Et puis Jésus, il est dans le même endroit, alors il est là, hein, parce que dès qu'ils l'ont réveillé, il était là. Et il ne réagit pas pareil. Donc qu'est-ce que le texte est en train d'essayer de nous apprendre ? C'est qu'il y a peut-être une autre façon de réagir dans la tempête que celle des disciples qu'on comprend très bien parce que je pense qu'on aurait fait à peu près pareil. Donc le problème, ce n'est pas les éléments extérieurs, mais c'est comment nous allons répondre à ces éléments. Et une des choses que le Seigneur est en train d'essayer de nous apprendre, et aujourd'hui, et pour moi c'est urgent de se dire que c'est aujourd'hui qu'il faut apprendre ça, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur la manifestation d'événements difficiles ou du mal. Et c'est très difficile aujourd'hui, parce qu'on est dans une société qui nous lave la tête avec tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas. J'écoutais il n'y a pas longtemps une amie qui disait par exemple que les chaînes d'information continuent ont été faites, entre autres, pour créer un climat anxiogène continuel. C'est connu. Donc ça veut dire que on entretient ces choses-là. Et donc ça veut dire quelle va être notre réponse à ce qui se passe. Comment nous allons vivre les événements. Alors, je ne parle pas de réponse humaine. Il y en a, ils ont vu tout ce qu'il fallait faire, pas faire. Il y en a, ils ne veulent plus rien entendre. Enfin, chacun se définit comme il veut, et ce n'est pas mon sujet de dire ce que vous avez à faire dans le naturel. Ce n'est pas mon sujet de dire « faites comme s'il n'y avait rien » parce qu'il n'y a pas rien. Et, c'est pas, et je ne vais pas dire non plus « attention, ne vivons plus ». Ce n'est pas ça non plus. Il y a, je crois, en tant qu'enfant de Dieu, on a un autre positionnement à trouver et qui n'est pas un positionnement de réaction par rapport à une tempête, par rapport à un événement extérieur. Il y avait un événement extérieur, Jésus était capable de dormir. Pas dire qu'il s'en fichait. Vous connaissez le cœur de Jésus. C'était pas ça. Mais il avait trouvé autre chose que nous avons du mal à trouver. Donc ça veut dire que Jésus veut nous apprendre à lui faire confiance au plus fort de la crise. Alors tout ça, on le sait, amen. Et dans la vraie vie, Exode 14, 10, 15, c'est le peuple d'Israël qui est enfin sorti de l'esclavage. Alors c'est un jour incroyable. Ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu le Dieu agir, ils sortent, ils sont enfin plus esclaves, et puis ils marchent, et puis ils se retrouvent devant, de nouveau, de l'eau. Une mer, on ne peut pas la traverser. Pharaon approchait, les enfants d'Israël lèvent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. De nouveau, vous comprenez, le levier des dérapages que nous avons, c'est la peur. Et c'est à nous d'être sensibles et de discerner tout de suite quand la peur est en train de rentrer à l'intérieur. Il se passe quelque chose au niveau des finances, au niveau de l'économie, au niveau de mes projets, au niveau des relations, au niveau de la santé. Tout de suite, il y a la peur qui peut monter. Et on ne peut pas dire « Oh non, non, moi ça ne m'arrive pas ». C'est pas vrai. Si on est vraiment connecté. Voilà, donc ils ont une grande frayeur, ils crient à l'Éternel, ils disent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Donc c'est merveilleux de voir comment la chair réagit dans ces cas-là, il faut quand même trouver un fautif. Donc ça c'est des scénarios, oh ouais mais c'était avant, on a toujours les mêmes. Quand une situation nous confronte, et que c'est une tempête, et que la peur commence à monter, on trouve des fautifs. Et en France, on est très bon, mais que fait l'État? Que fait la police? Que fait le gouvernement? Que font les responsables dans l'Église? Que font tous les autres? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que je fais? Et donc là, c'était bien évidemment la faute à Moïse. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. On a des fois la mémoire courte de ce qu'on vivait avant et qui était insupportable, et puis on en est libéré, et quand de nouveau ça devient difficile, on se dit « Oh, qu'est-ce que c'était bien avant !» Moïse répond au peuple « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Et l'Éternel dit à Moïse, et c'est quoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Donc on a un peu une situation un peu similaire, de dire il y a un événement très anxiogène, on va risquer notre vie, donc on ne s'en sort pas. On le voit même dans le texte de Marc, les disciples, il réveille Jésus en lui disant « Maître, tu ne te soucies pas que nous périssions. » Voilà. Non mais tu ne te rends pas compte, toi, parce que tu es autre. Mais nous, on est en train de mourir. Alors, si tu avais... En fait, c'est derrière le texte, c'est si tu avais un peu de compassion pour nous, tu ferais un truc, quoi. Et combien de fois, nous, on a prié, on a demandé que Dieu agisse, et puis on ne voit pas. On a tous des endroits comme ça. Dire « Seigneur, ben, tu m'as oublié, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc là, Moïse est bien positionné, parce qu'il ne regarde pas la mer, qui c'est pas un chemin, il ne regarde pas derrière en disant, ils arrivent bien vite les Égyptiens, là. Il a regardé au Seigneur, il a vu quelque chose, et parce qu'il a vu quelque chose, il peut le libérer sur le peuple, et il va libérer une parole, et je crois que c'est ça dans ce que Dieu veut nous amener à vivre, c'est que dans ces temps de chamboulement, d'ébranlement, on est dans des phases d'ébranlement qui vont continuer, il faut être honnête. Donc on se dit, bon, ben, ça va être bientôt fini, on va passer à autre chose. Non, encore un peu de temps et j'ébranlerai encore. Et on est dans ces temps d'ébranlement, donc il faut se préparer à le vivre autrement. Et Moïse, là, nous donne un exemple. Il n'a pas regardé à ce qui est arrivé d'un côté ou de l'autre, mais il savait que Dieu allait accorder la délivrance, que le problème qui surgissait, on ne le verrait plus jamais, et que c'est l'Éternel qui allait combattre pour nous, et restez tranquille. Arrêtez de râler, de dire ces choses-là. Restez confiant. Donc ça, c'est vraiment un changement intérieur que Dieu veut faire dans nos vies. Si on est honnête, on est en chemin. On ne va pas se jauger là où on est en chemin, mais on est en chemin là-dedans. Et régulièrement, on a besoin de se poser, de dire... Ouais, là, je suis en train de me laisser gagner par la peur. On n'est pas égaux là-dedans. Il y a des choses, moi, qui me font peur. Peut-être vous, ça ne vous fait pas peur. Et peut-être moi, j'ai moins peur de certaines choses qui, pour vous, vous angoissent. On ne peut pas se comparer. C'est assez pénible. Et puis, les gens qui n'ont jamais peur, je les trouve très suspects. Parce qu'il y a sûrement une déconnexion à traiter à l'intérieur. Mais... celui qui sait le danger et qui peut se poser dans la paix et dans la présence du Seigneur, celui-là a gagné en maturité. Si tu n'as rien à lutter par rapport à la peur, tu as été vainqueur sur rien. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, si nous luttons avec la crainte, avec la peur par rapport à une situation, si on est dans cette barque, c'est bon. Ça veut dire que c'est bien, on est en train d'apprendre quelque chose. Maintenant, il va falloir apprendre à être vainqueur. Et il y a plusieurs façons d'être vainqueur. Et je vais le voir très rapidement, mais comment être vainqueur dans ces cas-là ? Selon les cas, Dieu va nous dire « combat ». Alors on va sortir tout ce qu'on a appris sur les armes de Dieu qui sont puissantes, et puis on va les utiliser, on va déclarer les choses, et on va être vainqueur. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que Jésus attendait des disciples ? Quelle aurait été la bonne attitude ? Alors, je suis un peu imaginative, je me dis, ben, eux, ils ont pris un scénario B, on a compris que ce n'était pas le bon. Et ça parle aussi dans nos vies. Combien de fois Dieu avait un scénario A, le meilleur, et nous, on a pris le scénario B. Bon, ils se sont fait un peu remonter les bretelles, mais Dieu a agi quand même. Donc là aussi, ne laissons pas l'ennemi nous accuser. « Ah, t'as pas appris le meilleur, alors t'es rejeté. » Non, tu apprends quelque chose, peut-être un peu plus douloureusement, mais Dieu nous aime quand même et Dieu va quand même agir dans nos vies. C'est ce que aussi ce texte nous apprend. Mais quel aurait été le scénario A ? Alors, ils auraient pu faire ça. Mais quand on regarde le contexte, c'était vraiment au début. Et c'est au début des évangiles, et on le voit très bien, ils vont dire, mais qui c'est ce gars, en fait, qu'on suit ? Hein ? Donc, ils n'ont pas eu les bons cours. Et le cours, ils ont regardé sûrement sur leur calepin, le cours « Comment calmer une tempête ?» Ben, ils ne l'ont pas eu. Oui ? Ils auraient pu prier. Ouais, c'est un minimum. Je pense qu'ils l'ont fait, enfin, honnêtement. Mais à un moment donné, quand il y a plein d'eau dans le bateau et que vous êtes en train de couler, Il y a un instinct de survie qui doit, surtout quand on est professionnel, on va laisser la place aux autres aussi, hein, surtout quand on est professionnel, on s'active dans ce qu'on sait faire, dans le naturel. Donc, c'est des hypothèses, hein, on ne va pas tous les prendre, mais qu'est-ce que Jésus attendait ? Donc, moi, j'en sais rien parce que je ne suis pas Jésus, et puis nous non plus, mais c'est des hypothèses. Alors moi, je dirais, oui, certainement, Jésus aurait aimé qu'ils comprennent qu'ils étaient avec le Messie, le Fils de Dieu. Mais ils n'en étaient pas là encore de leur chemin. Et on voit même à la fin, quand il y a la croix, ce n'est pas encore bien clair pour tous. Donc ils étaient en chemin, mais sûrement que s'ils avaient fait ça, peut-être qu'ils auraient discerné ce qu'il y avait derrière, comme je vous ai dit. D'où, pourquoi la tempête se lève ? En fait, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de contester, c'est l'ennemi. Et je crois que ça, c'est quelque chose que nous pouvons comprendre très vite quand on vit des événements qui sont contre nous, qui sont très violents. On est tellement concentré par la violence du choc, quel qu'il soit, qu'on oublie d'être chrétien et d'exercer notre discernement spirituel. Il y a une tempête, mais qui commande la tempête ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, il faut qu'on se calme pour pouvoir poser les bonnes questions. Et vous savez que Jésus, comme tu l'as rappelé, il était un rabbi, il était un maître. Et vous savez qu'à cette époque, les maîtres souvent enseignaient au travers des bonnes questions qu'on pose. Si vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de réponse avec Dieu. Moi, quand je fais de la formation prophétique, tous ceux qui travaillent avec moi, c'est si tu veux avoir des réponses, il faut poser des questions. Et donc, voilà, ça c'était une première chose. Et puis peut-être aussi, et sûrement, quand même, Jésus se réveille, il a un réveil qui a l'air sympa. Parce que vous, quand vous êtes réveillé comme ça, je ne sais pas comment vous êtes. Moi, je sais. Et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cesse, un grand calme se fait. Vous imaginez la leçon ? Alors là, on aimerait avoir voir des choses comme ça, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous, on a eu les cours. Il faut maintenant que nous pratiquions. Et je crois que c'est ça que Jésus attend, c'est que nous pratiquions, comme ça a été dit, que nous ayons la parole d'autorité. Le monde attend la révélation des enfants de Dieu, que nous libérions les paroles d'autorité. Est-ce que ça marche à tous les coups ? Non. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur terre pour apprendre. Quand vous êtes rentré en maternelle, vous ne saviez ni lire, ni écrire, ni dessiner correctement. On vous disait de ne pas dépasser au niveau des couleurs. Ça a dépassé et on vous disait « c'est bien ». Maintenant, si vous êtes en terminale et que vous dépassez encore, voilà, la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que Dieu ne nous condamnera pas si nous essayons et nous essayons et nous essayons et que ça ne marche pas. J'aime beaucoup les témoignages de ceux qui ont des ministères dans la guérison. Ils ont un peu tous le même témoignage. C'est qu'au départ, ils ont prié pour des gens et la nouvelle, c'est qu'ils n'étaient pas guéris. Mais ils ont persévéré et à un moment donné, il y a eu une percée. Donc, on ne sait pas quand va être la percée. Il y en a, ça vient très vite. Il y en a, ça vient, je ne sais pas pourquoi, juste avant que tu coules. Mais peut-être que c'est une parole pour plusieurs d'entre nous, c'est de dire, nous, on a appris certaines choses, on a la parole, on sait qu'on peut parler à la tempête et on peut lui dire « tais-toi ». Il y a des choses qui parlent trop fort à l'intérieur de nous, qui parlent trop fort autour de nous, on peut leur dire « tais-toi ». Et ça va s'arrêter, ou pas. Mais nous allons persévérer à être ce que Dieu nous dit d'être sa voix. L'Église, c'est sa voix. C'est nous parlons de la part de Dieu. Il n'a pas besoin de nous, mais il a choisi de travailler et d'agir au travers de nous. Et donc dans ce texte, une fois que c'est fait, c'est calmé, il se tourne vers les disciples et il leur dit « Mais pourquoi avez-vous tellement peur ? Et ça, c'est les questions de Jésus. L'aveugle vient le voir et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Ben, voir. C'est très étonnant comment la pédagogie du Seigneur. Donc, pourquoi est-ce que tu as peur ? Et c'est ça qui est important, c'est que nous puissions, au travers de la parole de Jésus, rentrer en nous-mêmes. Pourquoi est-ce que j'ai peur ? De quoi est-ce que j'ai peur ? Qu'est-ce que tu veux toucher dans ma vie au travers de ça ? Et je pense que, quelque part, ça les a remis en question. Parce qu'après, ils vivaient avec, ils ont dû en reparler. Ils ont dû être confrontés par la parole de Jésus. Pourquoi avez-vous tellement peur ? Et c'est une parole, je crois aussi, que le Seigneur nous dit, à nous personnellement, mais dit à l'Église de façon générale, pourquoi avez-vous peur dans la situation présente ? Mais Jésus, tu ne te rends pas compte, il y a tout qui se casse la figure. L'économie, on ne sait pas comment ça tient encore combien de temps, etc., etc. Il y a des vraies, vraies, vraies raisons. Est-ce que Jésus ne les connaît pas ? Si. Et il va dire simplement, comment n'avez-vous pas de foi ? Et la foi, qu'est-ce que c'est à ce moment-là ? Il ne connaissait pas bien Jésus, Jésus le savait, mais peut-être qu'il espérait qu'en voyant qu'il dormait, eh bien, ils auraient dit, ben, ça va. Si moi je m'écoute, si moi je regarde à l'extérieur, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Mais si Jésus dort, qu'est-ce que moi je dois faire ? Et ces derniers temps, bon, j'ai vécu des trucs un peu compliqués. Et il y a 2 ans, et l'an dernier, on a commencé à vivre des choses qui étaient fortes dans la présence de Dieu, dans la maison de prière, etc. Et au fur et à mesure, j'ai appris à voir où était mon esprit. Bon, ça fait un peu mystico, mais bon, c'est une parenthèse. Après, si ça ne vous convient pas, vous le mettez de côté. Vous savez que nous sommes corps, âme, esprit. Et on peut voir notre corps, on peut toucher notre âme, mais notre esprit, ça correspond à rien, mais c'est une partie importante de nous-mêmes, c'est notre être spirituel. Et Dieu peut nous faire la grâce de le voir. Et il y a un endroit où je sais que je suis en paix, je suis tranquille, et là je voyais que j'étais pas du tout tranquille, que je marchais dans tous les sens, on va dire ça comme ça. J'étais agitée comme la tempête. Et ma victoire à ce moment-là, ça a été que mon esprit puisse être tranquille dans la présence de Dieu. Et je crois que ça, c'est le secret pour vivre correctement ce qui se passe et ce qui va se passer. Où est mon esprit ? Mon corps et mon âme, ça va, je vois, malade, agité dans les émotions, dans les pensées, ça s'agite. Mais qu'est-ce que fait mon esprit ? Est-ce que c'est lui qui suit l'agitation et qui s'agite avec ? Ou est-ce que mon esprit est posé en Dieu. Nous pouvons être un avec l'Esprit de Dieu. On peut se dire que dans la présence de Dieu, il y a vraiment la paix, le shalom. Et c'est ça que nous devons apprendre à chercher dans ces temps-là. Alors, peut-être effectivement que scénario A, il attendait que les disciples menacent les eaux, mais ils n'avaient pas eu le cours. Mais ils voyaient scénario A possible aussi, que Jésus dormait et que si lui n'est pas affolé et si ça va pour lui, alors ça va aller pour moi. Bon, même si on a de l'eau jusque-là. Mais et ça, on ne peut pas le faire naturellement. Il faut basculer dans le surnaturel. On a beaucoup parlé l'an dernier d'apprendre à vivre de l'autre côté du voile déchiré, où les choses naturelles ne fonctionnent plus de la même façon. Nous sommes plus soumis à des lois naturelles, mais nous rentrons dans des lois surnaturelles. Et ce n'est possible que dans l'apprentissage de la relation, jour après jour, d'apprendre. Alors il y a des moments mieux que d'autres, on est bien d'accord, mais c'est là où va être notre espoir, notre secours. C'est là, comme Moïse, nous allons pouvoir entendre Dieu nous parler, de voir et de déclarer, les ennemis que nous avions, nous ne les verrons plus jamais. C'est une parole puissante. Il ne l'a pas déclaré pour redonner un peu de courage aux gens. Il a vu, il a entendu. Restez tranquille, c'est Dieu qui va combattre pour nous. Et il vaut mieux pas se tromper quand même. Hein. Il y a des fois où Dieu te dit, lève-toi et combat, alors je vais combattre. D'autres fois, Dieu te dit, fuis, alors il faut fuir. D'autres fois, il dit, Reste tranquille, ne combat pas. Et je vais finir par un témoignage. Moi, dans ma première partie de ma vie, on a surtout appris à combattre. Dans les années 80, 90, on ne faisait pas des frappes chirurgicales et précises en discernant bien. On balayait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on savait. Et des fois, ça marchait parce que du coup, voilà, au nom de Jésus, paf, 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 on priait pour tout ça. Et puis voilà. Et puis un jour, je crois que j'ai déjà témoigné de ça, on a été cambriolés, pas ici, mais dans un autre local. Et je venais d'acheter une super guitare, un super ampli. Plus rien. Tempête. Donc, moi, ma première réaction, on va les trouver, on va leur casser la gueule. Bon. J'étais jeune quand même encore. Et on est du Mirail, on sait où sont les réseaux, les machins, etc. Moi, j'étais à fond énervée. Qui ça peut être vénère. Et puis, il ne fallait plus me parler de faire de la musique. J'étais dégoûtée. Je ne sais même plus, j'avais fini de payer mon machin. Énervée à fond. C'est fini, je ne fais plus de musique. En plus, il y avait la fête de la musique avant, je m'en fous. C'était énervée. Mode warrior, quoi. Et puis, Dieu me dit, fais-moi confiance. Il me donne un verset, il dit « Reste tranquille et bénis-moi et loue-moi ». C'est-à-dire que je suis en train de couler et Dieu me dit « Bénis-moi ». Donc non, ça a été un peu difficile. Et puis à un moment donné, vous savez que négocier avec Dieu, ça ne dure pas trop. Donc j'ai capitulé et j'ai dit « Je suis en paix, c'est entre tes mains et ça va ». Et là, je sais que mon esprit était un avec lui et que tout allait bien. C'était fini. Il avait dit sûrement une parole et la tempête s'était apaisée. Et dans la semaine, quelqu'un m'a payé un nouvel ampli, une nouvelle guitare, sans que je fasse des appels aux dons sur tous les réseaux qui n'existaient pas d'ailleurs. J'ai dit, et pour moi, ça a été une vraie réponse de dire, il y a aussi là un chemin dans la tempête. Il y a aussi là une autre façon de combattre. Et j'ai rajouté ça à mes possibilités. Donc dans la tempête, Dieu nous dit peut-être « Combat, lève-toi, déclare, fais taire. » Et d'autres, il va dire « Fuis, fuis, va-t'en. Si le combat est là, n'y va pas. Ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas toi. Je te donne une autre... » Et des fois, c'est bien de faire ça. Et puis d'autres fois, c'est « Soumets-toi à ma puissante main, abaisse-toi, et puis je combattrai pour toi. » Voilà, je vais finir là-dessus. Dieu... est bon dans nos tempêtes. On n'a pas à chercher à qui la faute, on n'a pas à chercher à que Jésus ne répond pas et s'énerver contre Jésus, même si on sent qu'on a le potentiel de bien le faire, mais que dans ces cas-là, Dieu est toujours bon, il est avec nous. À nous maintenant de voir dans nos tempêtes, de ne pas avoir sans arrêt nos yeux fixés sur la télé, radio, les infos, qu'est-ce qu'on nous cache, qu'est-ce que. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si ça prend plus de temps, plus d'énergie que d'avoir nos regards fixés sur Jésus, c'est sûr que ce n'est pas équilibré. Donc à nous de voir dans nos tempêtes où sont nos cœurs et nos regards. Et de dire maintenant, Seigneur, je vais me calmer, je vais me poser en toi, je vais t'aimer, t'adorer, dans la barque, tu as l'air tranquille, il n'est pas affolé. Alors moi, je vais essayer d'apprendre ça aussi et tu vas me donner quelle est la stratégie que tu veux pour moi, pour nous, etc. Voilà, Seigneur, je veux te remercier pour ta bonté, le fait que tu es avec nous, même si nous ne comprenons pas pourquoi tu ne réponds pas tout de suite, pourquoi tu laisses les choses faire, mais nous sommes ici, je vais encore le redire, parce que nous formons sur Terre. Notre vie sur Terre est un temps de formation pour le monde à venir. Notre royaume n'est pas encore là. Alors je veux vraiment déclarer que tu es un bon maître, tu es un bon prof, tu nous aimes. Merci de venir toucher nos cœurs, de venir mettre de la lumière dans les tempêtes que nous vivons, intérieures, extérieures, ce qui se passe sur la nation, et de nous positionner correctement. Donne-nous le courage, Seigneur, que ta lumière vienne sur nos motivations profondes, sur nos peurs cachées, là où nous croyons que nous n'avons pas peur, que nous n'avons pas mal, que ta lumière puisse venir. Je te remercie de ce que tu vas guérir au travers de ça, les choses dont tu veux nous délivrer, afin que nous puissions vraiment nous lever dans notre héritage de fils et de filles Et par rapport à ce que nous vivons en tant que communauté, Dieu nous dit vraiment quelle est ta mission. Et si nous sommes concentrés sur les tempêtes, la mission, il n'y en aura pas. Alors que vraiment nos regards se fixent sur toi, parce que l'ennemi fait tout pour nous arrêter afin que nous ne nous levions pas dans la mission qui est la nôtre. La moisson est là. Dieu nous attend dans des choses précises. Et si toute notre énergie est prise dans cette crainte, dans cette peur de ce qui se passe, alors on se fait avoir, alors que nos regards, que nos cœurs soient touchés et centrés sur toi. Et toi, tu vas t'occuper de la tempête qui peut se passer sur notre nation, sur le monde, sur nos vies. Nous déclarons notre foi ce matin. Nous déclarons notre confiance en Jésus. Nous déclarons que nous avons un Seigneur qui nous aime, qui nous connaît. Nous croyons que ta parole, elle est puissante et que tu vis en nous et que tu l'as mis en nous. Nous croyons que le voile est déchiré et que nous avons un libre accès dans le sanctuaire, que nous pouvons habiter, demeurer avec toi. Nous pouvons déclarer que tu nous as fait asseoir en toi, ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus. Merci pour tout ce que tu nous as déjà donné. Alors nous voulons revenir à qui tu es, à ton héritage, à ce que tu nous as donné. Merci aussi, Seigneur, que nous déclarons ce matin que nous lions l'esprit de peur, l'esprit de crainte qui voudrait agir à nouveau dans nos vies. Nous choisissons de te faire confiance et de ne pas chercher à accuser quoi que ce soit, mais de regarder à toi. Merci pour la paix et le shalom que tu nous donnes aujourd'hui et dans cette semaine. Amen. Voilà, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre nous. Bonne semaine. Et bonne semaine à ceux qui nous regardent aussi.